La chronique des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Francopresse. Bonjour Julien.
Bonjour.
Julien, on y va avec une nouvelle tirée de Francopresse. Peu de données sur les droits linguistiques dans les prisons canadiennes.
On s'est demandé si les services en français s'appliquent dans les prisons fédérales, donc qui relèvent du gouvernement du Canada, pas nécessairement celles des provinces. Le commissaire aux langues officielles nous a confirmé que la loi sur les langues officielles s'applique bien dans les prisons. Puis, Service correctionnel Canada dit qu'il offre des services en français quand ils sont demandés et il propose même des formations linguistiques à ses employés. Mais ils n'ont pas pu nous dire, ou ils n'ont pas voulu nous dire combien de postes bilingues existent dans les prisons, combien de personnes emprisonnées ont fait des demandes de services en français. On a parlé malgré tout à un professeur de droit de l'Université d'Ottawa, Joao Veloso, qui s'intéresse aux droits des personnes détenues. Il nous a dit qu'avant la création du projet Prison Transparency Project, qui étudie justement le niveau de transparence de l'information sur les prisons au Canada, en Argentine et en Espagne, bon, il disait que même avant ce projet-là, on savait que c'était difficile de faire des études sur quoi que ce soit dans les prisons, mais surtout sur la langue, parce qu'il n'y a pas de données publiques vraiment disponibles là-dessus. Le professeur Veloso rappelle aussi, par contre, que c'est important d'avoir des services en français dans les prisons, parce que le système carcéral canadien est basé sur la réhabilitation. Si on ne peut pas offrir les services dans la langue du détenu, ben ça diminue, ça a le potentiel de diminuer largement les effets positifs qu'on attend.
Un drame marin soulève des questions sur la préparation des autorités. C'est dans la voie acadienne.
Oui, le 27 septembre, il y a trois cachalots qui se sont échoués sur une plage de l'île du Prince-Édouard. La voie acadienne rapporte le désarroi des résidents qui ont signalé quand même ça assez rapidement aux autorités. Malgré cet appel à l'aide et le passage des autorités, les baleines sont mortes après quelques jours. On n'a pas pu les remettre à l'eau. Puis, les résidents se demandent pourquoi. La Marine Animals Rescue Society, de son côté, dans l'article, rappelle que remettre une baleine à l'eau, même si je pense que c'était des bébés, c'était pas des adultes, c'est quand même pas si simple. Par exemple, ils disent qu'on peut pas tirer par la queue. Ça peut causer plus d'autres blessures. Ces animaux-là sont pas faits pour être hors de l'eau. Donc, les bouger quand ils sont seulement dans 30 cm d'eau, on disait à un certain endroit, ça peut être délicat. Malgré tout, les résidents pensent que les autorités ont abandonné trop rapidement d'essayer de les sauver. Les employés, comme je disais, sont arrivés après qu'on ait signalé leur présence, sont arrivés sur place, ont resté quelques heures, ont observé, mais sont repartis sans rien faire et ne sont jamais revenus pour les remettre à l'eau. Il y a une dame qui dit qu'on n'a même pas essayé, du moins on dirait qu'ils n'ont même pas essayé d'abréger les souffrances des mammifères par l'euthanasie. Ce qui est clair, c'est que la situation... C'est pas simple à gérer ces situations-là. Donc, les résidents se demandent s'il n'y aurait pas une meilleure façon d'intervenir, de mieux se préparer, parce qu'on s'attend à ce que ça arrive de nouveau avec les changements climatiques.
Bon, alors, de la tristesse, on passe au rire. Faire rire en français à Toronto, c'est dans l'Express.
Oui, qui nous apprend qu'il y a une soirée micro ouverte pour les humoristes en herbe à Toronto. Ça s'appelle Francomédie. Ça existe depuis environ un an et demi. C'est le petit frère d'une autre soirée de micro ouvert qui s'appelait Franc Open Mic. Des soirées qui permettent, cette deuxième-là, c'est des soirées qui permettent de chanter, de danser, de jouer de la musique, faire de l'humour. Donc, on a voulu créer une soirée entièrement dédiée à l'humour, comme une petite soeur ou petit frère de l'autre. C'est encore petit. Le public qui était là à la soirée où l'Express était présent était majoritairement composé des amis, de la famille, de ceux qui présentaient des numéros. L'organisateur Serge Paul explique quand même que le but, c'est pas de créer nécessairement un public fidèle qui revient à chaque fois parce que les un peu comme un humoriste qui essaye son spectacle, qui rôde. Ces blagues, les humoristes en œuvre peuvent revenir plus qu'une fois pour essayer d'améliorer leur numéro. Donc, ça peut être un peu répétitif si on y va trop souvent. Bref, ça avait commencé en force là, il y a un an et demi avec des noms assez connus de gens, d'artistes de l'Ontario. Mais les organisateurs espèrent que ça va continuer.
Des soirées qui font beaucoup de bien. Et on passe maintenant au dialogue autour du bilinguisme manitobain.
Parce que le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, a récemment annoncé son intention de faire du Manitoba la prochaine province officiellement bilingue du Canada. Ça fait que la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada a saisi l'occasion pour organiser une rencontre à Saint-Boniface, au Manitoba, pour, entre autres, montrer son appui au projet et voir commencer peut-être la discussion. La CFA veut encourager la province à aller de l'avant, mais insiste sur l'importance de bien faire les choses. Puis l'organisme est prêt à contribuer, mais bon, il n'y a pas de plan encore, donc ils vont attendre les décisions de la province pour savoir comment ils peuvent être utiles. Le gouvernement est d'ailleurs en consultation, c'est commencé pour voir comment on peut lancer cette initiative-là, comment on peut instaurer le bilinguisme officiel dans la province. Après les consultations, il devrait avoir un plan d'action. Il devrait être élaboré. Puis, je vous rappelle que le français a toujours été présent au Manitoba, notamment en raison de la présence des Métis. Ça fait qu'il y a quand même 300 ans d'histoire francophone.
Êtes-vous déjà allé au Manitoba, Julien?
Non, j'ai pas eu cette chance. Je suis allé dans d'autres provinces, mais Manitoba manque encore à mon expérience.
Oui, j'aimerais bien y aller là où est né Gabriel Roy. Et on passe à la francophonie qui se mobilise face à la grève des enseignants albertains.
Il y a en ce moment 51 000 enseignants en Alberta qui sont en grève depuis le 6 octobre. Ça inclut évidemment ceux des écoles francophones. Le journal Le Franco raconte comment il y a des groupes communautaires qui sont organisés, entre autres des petits groupes communautaires, oui, et des organismes sans but non lucratif, se sont organisés pour créer des petits groupes de garde d'enfants pour dépanner les parents qui n'ont pas d'autres alternatives pendant cette grève-là. C'est pas tous les parents qui peuvent arrêter de travailler. Donc, on s'est organisé comme ça. Les organismes ont créé parfois des trucs à prix réduit, mais c'est pas comme 10 $ comme les garderies, mais c'est plus comme autour de 30 $ par exemple. C'est le chiffre qu'on donne dans l'article. Il y a une mère qui raconte aussi que sa fille aînée s'est proposée pour garder les enfants plus jeunes autour de chez elle. Il y a quand même plus de besoins que d'offres. Par exemple, à Calgary, il y a un groupe qui a ouvert un service pour 16 enfants, mais la demande qu'ils reçoivent est beaucoup plus importante que ça. Puis en ce qui concerne la grève, les négociations sont dans l'impasse, ce qu'on nous dit. Les professeurs ont refusé la dernière offre du gouvernement à la fin septembre, qui proposait une augmentation salariale de 12 % sur 4 ans et l'embauche de 3 000 nouveaux enseignants sur 3 ans. Les discussions sont supposées avoir repris hier.
On souhaite un dénouement heureux, évidemment. Et on termine avec la baisse du financement fédéral du Collège nordique.
Le Collège nordique, c'est le seul établissement postsecondaire entièrement francophone dans les territoires canadiens. Là. Donc, quand on regarde le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ils ont reçu une très mauvaise nouvelle. Donc, début septembre, le patrimoine canadien a réduit le financement du Collège d'à peu près le tiers. Des financements, surtout qui avaient été augmentés au cours des dernières années parce qu'on avait des projets d'expansion, on voulait offrir plus de cours, donc le gouvernement s'était impliqué et on avait donné un peu plus de financement. Selon l'Aquilon, il y aurait eu 4 postes qui auraient été supprimés, mais ce n'est pas la fin des démarches que doit prendre la direction. Le collège dit avoir pu sécuriser du financement pour 3 ans, donc son existence n'est pas menacée, mais comme je disais, l'argent obtenu au cours des dernières années avait permis d'augmenter les services. Là, ils vont devoir reculer et en réduire une partie. Il y a probablement des programmes qui vont être touchés, mais le directeur Patrick Arsenault a souligné qu'il n'était pas encore à l'étape de cette réflexion-là, de savoir exactement qu'est-ce qui allait limiter de ce côté-là. C'est pas mentionné dans l'article, mais ailleurs, un autre média a mentionné que ce serait les coupes demandées par le gouvernement Carney de 15 % dans le budget fédéral qui auraient entraîné cette réduction-là. Puis l'Aquilon se penche beaucoup aussi dans l'article sur la suppression qu'entraîne les drames humains qu'entraînent la suppression, pardon. Par exemple, une des personnes dont le poste a été supprimé était une personne immigrante arrivée au Canada avec un permis de travail fermé, donc elle ne peut pas changer d'employeur, elle va devoir peut-être retourner chez elle, puis une autre personne qui attendait son deuxième enfant.
Ah, des problèmes. Il y en a beaucoup. Merci, cher Julien. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.